Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc « Ne craignez point mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. » Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison, par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tout contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus qu'il leur devait il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie car les pauvres gens mouraient de faim. La bûcheronne envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants? Ils feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui as voulu les perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était tout en pleurs. « Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ?» Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte l'ayant entendu se mirent à crier tous ensemble « Nous voilà, nous voilà !» Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant « Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme te voilà crotté, viens que je te débarbouille. » Ce Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'entendre un extrait du Petit Poussé, car c'est sur ce thème que nous poursuivons notre émission, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, le Petit Poussé, donc, dont vous avez pu entendre la première partie il y a 15 jours. Et nous avons laissé le petit poussé et ses frères dans la forêt. Heureusement, le petit poussé avait déposé des petits cailloux blancs qui lui permettent de rentrer à la maison. Et nous en sommes à ce retour, docteur Dominique Desmichel. C'est pas le retour du fils prodigue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plutôt un retour en catimini au départ.
Oui, c'est un retour en catimini. Et puis surtout, à ce moment-là, il va y avoir un autre événement qui intervient. Un autre événement dont vous venez d'entendre le récit ici avec l'histoire du seigneur du village qui vient rembourser ses 10 écus. Alors, on a envie de se dire, voilà, c'est comme au cinéma, il y a un autre plan, il y a une première histoire, on a vu la famille, on a vu l'abandon des enfants, puis là on change de plan, il y a une espèce de figure tutélaire et pas n'importe laquelle, c'est celle du seigneur du village, et on apprend qu'il était en dette. Il rembourse cette dette, comme par hasard, alors que les pauvres bûcherons ne l'attendaient pas. Ce qui me semble intéressant de noter, c'est que du coup, on s'aperçoit que le père bûcheron et puis sa femme sont aussi des victimes. Parce que si cette dette avait été remboursée un petit peu plus tôt, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de problème de famine. Ouais. Hein ? Donc, on a envie de se dire, mais depuis quand les puissants sont-ils les débiteurs des pauvres ? Évidemment, quand je dis ça, ça ne justifie pas d'abandonner ses enfants. Hein. On peut peut-être essayer de trouver d'autres moyens. Je vous rappelle qu'on est dans une perspective psychique, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'aller les abandonner complètement ou les laisser mourir comme ça, mais de se dire qu'on n'a plus cette présence parentale. Donc, je crois que si on considère que ce seigneur représente une figure tutélaire, alors j'ai envie de considérer que ce personnage-là, c'est une figure de grand-parent. Hein, voilà. Et il me semble que c'est intéressant à considérer parce que du coup, on s'aperçoit qu'il y a la génération du petit poussé avec ses six frères avant lui, qu'il y a la génération du père bûcheron avec sa femme, et qu'il y a une autre génération au-dessus, et qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je crois que le seigneur, c'est obligatoirement plus un nanti, il n'honore pas pour autant ce qu'il doit, et j'ai envie d'essayer de penser que les enfants, en tout cas toute la fratrie du petit poussé, pourraient payer dans une certaine mesure une dette des grands-parents aux parents qui n'a pas été honorée, et dont les parents ont souffert. Hein, voilà. Donc je pense que ça permet de relativiser, on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans le conte, combien ça permet de comprendre la suite du conte, de penser l'histoire du petit poussé, pas simplement avec les pauvres petits-enfants, oh les horribles parents, et puis on s'arrête là. Non, il y a des enfants qui ont été abandonnés parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du côté de la capacité maternelle des parents, mais à la génération du dessus, il y avait aussi une dette qui n'avait pas été honorée.
Alors, cela étant, les parents vont quand même préférer aller chez le boucher plutôt que d'aller chercher leurs enfants dans la forêt.
Exactement.
Alors, ils s'enfoncent là quand même.
Exactement. Vous avez tout à fait raison.
Devant un jury, ça serait compliqué à défendre ça.
Je suis d'accord. Je vous rappelle, on va le reprendre un petit peu plus tardivement, qu'il faut l'entendre aussi sur le plan psychique, hein, c'est-à-dire de l'entendre intérieurement. Mais vous avez raison, il y a un petit peu d'argent frais, 10 écus, je ne sais pas trop ce que ça représente, mais manifestement, ça ne doit pas être 3 euros ou 5 euros, hein, ça doit être probablement une grosse somme, puisqu'on en parle. On pourra aller chercher les enfants. Non, le père bûcheron, il envoie sa femme chez le boucher. Bah, il doit aimer la viande, hein. Et la mère elle-même, elle semble prodigue, puisque nous venons de l'écouter, elle achète de la viande, et la viande à cette époque-là, c'était plus coûteux que le pain, hein, c'est bien évident, c'était vrai hier comme aujourd'hui, et puis elle en prend pour 6, 3 fois pour 2. Alors pour 6, on a envie de réfléchir, je sais pas trop quoi, 6, ils sont 2, voilà. Alors est-ce que c'est pour les 6 enfants avec le petit poussé à part, et pas pour les parents? On ne sait pas trop, toujours est-il qu'elle en prend beaucoup. Deuxième occurrence sur l'oralité, c'est-à-dire on avait vu que c'était la famine qui causait le drame initial. Et là, on voit bien que dès qu'on a un petit peu de l'argent, on ne va pas se dire « tiens, on va payer nos dettes, tiens, on a des dettes chez l'épicier du coin, on va rembourser nos dettes » ou « tiens, on va acheter un petit peu de riz ou un petit peu de farine pour faire du pain et puis pour tenir ». Non, on est du côté de l'alimentation et que ce sont les parents.
Du côté de la boulimie, j'ai envie de dire.
Voilà, peut-être.
On y reviendra sûrement quand on abordera ce conte de manière psychanalytique, mais il y a quelque chose comme ça,
voilà.
J'ai l'impression.
Hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant de noter aussi que c'est à ce moment-là que la mère pense à ses enfants. Elle y pense que quand elle a mangé. Ouais. Tous les deux ont mangé, ils sont rassasiés, il y a même des restes. Et à ce moment-là, elle pense à ses enfants. Elle pense au loup, et d'ailleurs, elle pense au loup qui dévore dans la forêt. Ouais. Hein, donc on est du côté, au début, on va voir que ça va changer après, mais on est au début toujours dans cette histoire de manger, d'avaler et de dévorer. Elle a le ventre plein, elle a le ventre plein de viande. Elle qui a eu le ventre plein d'enfants. Hein, et la viande et les enfants, c'est toujours de la chair. Alors il y a de la chair animale quand on va chez le boucher, et puis il y a de la chair humaine quand on a des enfants dans son ventre.
Et la femme du bûcheron, la mère, finit par pleurer, quoi, de plus pleurer d'avoir abandonné ses enfants. Par contre, le père bûcheron, lui... ça ne paraît pas le toucher, hein.
Non.
Le bûcheron, mais il a un vrai cœur de bois aussi.
Hein. Oui, il a un vrai cœur de bois. Moi, je dirais plutôt de pierre même, parce que le bois, ça se travaille. Le bois, on fait de belles choses aussi, avec la pierre aussi. Mais la pierre, c'est quand même le minéral, c'est quand même l'immortalité. C'est, voilà, le cœur de pierre, ça dit ce que ça dit, il me semble.
Et c'est à partir du moment où la mère se met à pleurer que les enfants s'autorisent.
Oui.
À frapper à la porte et à réapparaître.
Tout à fait. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Et ils s'autorisent. On pourrait penser, par exemple, que s'ils étaient revenus et qu'ils avaient vu les parents juste comme ça, continuer à vaquer à leurs affaires, bah, peut-être qu'ils seraient partis ailleurs en se disant qu'il n'y a pas de place pour eux. Mais là, il y a les larmes de la mère. Et c'est celle qui semble les autoriser à rentrer. Et d'ailleurs, dans le conte, on a l'impression que sa joie semble réelle, elle évoque la fatigue, elle évoque la faim, mais Ce qui est quand même aussi frappant, c'est qu'elle n'a aucun mot sur le pourquoi de la situation, hein. Le seul effet de l'aventure semble être que enfin pour elle, la mère, que son fils est tout crotté, il porte une souillure. Sa mère, en tout cas, le remarque. Et si elle remarque cette souillure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la concerne, hein, parce que c'est toujours dans une perspective subjective qu'on remarque quelque chose chez l'autre. Bon, il y a une part objective, peut-être qu'il avait une grosse tache quelque part, mais il y a aussi quelque chose qui doit la concerner. Il faut dire que ce fils aîné, il a l'air d'être un petit peu son prolongement, hein, c'est celui qu'elle a investi. Un fils tout crotté, une mère toute crottée, et on a envie de se dire, il y a quelque chose qui est blessé, en tout cas, dans cette histoire.
Oui, et puis cette mère est vraiment ambiguë, hein, parce qu'elle a un comportement de mère tout à fait banal avec ses enfants, la nourriture, la propreté et le sommeil, et puis à côté
Oui.
de ça, elle fait des choses horribles sans le vouloir, hein.
Oui,
On a envie de le
oui.
dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, en tout cas, on cause un peu, hein, on discute un petit peu,
Et on mange de nouveau.
et on mange de nouveau, voilà, enfin, ou on mange de nouveau, ou on
Mange les
mange
restes, en tout
pour
cas.
la première fois, en tout
Ouais,
cas,
ouais,
hein, parce
ouais.
que dans la forêt,
Pour les
les
enfants,
enfants,
ouais.
ils n'ont pas dû, voilà, on remange et on remange à la table des parents. Et on remange à la table des parents à partir d'une dette remboursée, hein. Voilà, ça c'est bien important à souligner. C'est-à-dire, c'est parce que les parents ont récupéré quelque chose, c'est parce qu'il y a une dette, je dirais un peu des grands-parents qui a été remboursée, que du coup on peut nourrir les enfants. Toujours est-il, en tout cas, c'est qu'on parle de rien, on ne parle pas de ce qui s'est passé, on ne parle pas de savoir comment les enfants sont rentrés à la maison, on ne parle pas du rôle du petit poucet. Voilà, toujours est-il, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la viande sur la table et que toute la famille la partage.
Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit Poucet, qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Mais quoiqu'il se fût levé de grand matin pour aller ramasser de petits cailloux, il ne put en venir à bout car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire lorsque la bûcheronne, leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu des cailloux, en rejoignant par miettes le long des chemins où il passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur, et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit poucet ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé, mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en trouver une seule miette, les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que les hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os, et glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poucet grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien plus loin, par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle. Non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelque fond. Ils heurtèrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poucet lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si polis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ?»« Hélas, madame, lui répondit le petit poucet qui tremblait de toutes ses forces, aussi bien que ses frères, que ferons-nous? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange, peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Lorsqu'ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait aussitôt. Sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller, que vous sentez. »« Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l'ogre en regardant sa femme de travers, et il y a ici quelque chose que je n'entends pas. » En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ah, dit-il, voilà donc comment tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter 3 ogres de mes amis qui doivent me venir ces jours-ci. » Il les tira de dessous le lit l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en demandant pardon, mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévoraient déjà des yeux et disaient à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Elle alla prendre un grand couteau et, en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur sa longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ?» « N'aurez-vous pas assez de temps demain ?»« Tais-toi, » reprit l'ogre. « Ils en seront plus mortifiés. »« Mais vous avez encore la tente de viande, » reprit sa femme. « Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as raison, » dit l'ogre. « Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher. » La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper, mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une 12aine de coupes, de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et je suis en compagnie du docteur Dominique Desmichel et du petit poussé de ses frères et de ses parents. Et nous poursuivons cette lecture de ce conte avec, docteur Dominique Desmichel, les fameux 10 écus qui durent ce qu'ils durent. Et après un moment de paix dans cette histoire, voilà les parents qui complotent de nouveau.
Voilà, je rappelle bien à nos auditeurs que l'idée, c'est d'entendre tout ce qui se passe là, ici, que, enfin, pas simplement à partir d'une histoire de gros sous. Hein. Quand on parle de 10 écus, ça veut dire que de nouveau, il y a de l'énergie, de nouveau, il y a un petit peu d'amour, de nouveau, il y a du lien dans la famille, voilà. Donc, il faut bien se rappeler que ces 10 écus, ils ont été apportés par la génération d'avant, hein, on l'a vu juste précédemment. Toujours est-il que ça dure un petit bout de temps, mais ça dure au fond pas très longtemps, c'est la misère qui revient. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que dans le texte, on dit que c'est le premier chagrin qui revient. Voilà, ça me rappelle ce proverbe qui dit « senteur de chagrin ne paie pas un sou de dette ». Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux s'évertuer que de se livrer à un chagrin inutile. Hein. Il vaut mieux s'occuper à travailler que de se lamenter sur soi-même. Et d'ailleurs, sur le plan étymologique, le mot chagrin, au départ, c'est une sorte de peau un peu rude, un peu pas très douce, qui est grenue et qui est employée pour polir. Et donc, c'est devenu, de manière métaphorique, l'expression d'une peine qui vous ronge un peu. Voilà. Donc, on est passé de la peau rude qui fait chagrin à la peine morale. On voit ça dans le dictionnaire littré. Donc, c'est le chagrin qui revient.
Le scénario se répète.
Oui.
Les parents vont abandonner le petit poussé dans la forêt, mais cette fois-ci, le petit poussé, il a été un petit peu moins malin, parce qu'au lieu de prendre des cailloux blancs, il a pris ces fameuses miettes de pain qui vont être picorées par les oiseaux, tout simplement.
Voilà. Et il faut se rappeler quand même que s'il n'a pas pu aller chercher les petits cailloux blancs, c'est parce que les parents ont fermé la porte. Hein. Donc ça veut dire que lui, il a pu entendre que le scénario allait se répéter, il a pu sentir que la dramaturgie initiale, elle était toujours présente, mais qu'il n'a pas pu prendre ses petits cailloux. Alors, est-ce qu'il a raconté comment il était revenu, c'est-à-dire avec quelle énergie intérieure il a pu revenir? Est-ce que finalement, le groupe familial est encore plus renfermé sur lui-même, encore plus clos, donc on ne peut pas en sortir, on ne peut pas aller chercher de l'énergie à l'extérieur? comme vous le dites, il prend un petit peu sur son quota à lui, hein, c'est-à-dire il prend sur son énergie à lui, il prend sur son pain du petit déjeuner, et comme vous le dites, il sème les petits morceaux de pain qui vont être pris par les oiseaux. On est encore du côté de l'oralité.
Oui, et voilà les enfants seuls dans la forêt, abandonnés par leurs parents.
Oui. Donc, on se retrouve vraisemblablement au crépuscule, puis dans la nuit, les loups arrivent et c'est intéressant de noter que ces loups, ils sont potentiels, puisque le conte dit ils croyaient entendre leur hurlement. Donc, je pense que probablement, ça veut dire qu'il n'y a pas de loups. Il faut se rappeler que dans le texte, ce qui est écrit par un savoir collectif qui s'est accumulé, c'est-à-dire il y a des milliers de personnes qui ont raconté ces histoires et qui les ont ajustées pour que ça renvoie à une finesse et à un savoir collectif inconscient extrêmement précis, on dit qu'il n'y avait probablement pas de loups. Alors que tout le monde le sait, hein, dans les loups, enfin les loups dans les contes, ce n'est pas ce qui manque. Ouais, hein, ouais. Du petit chaperon rouge et tous les autres, il y a plein de loups.
Là, on a un indice, en tout cas, de l'imagination des enfants, parce que c'est leur imagination finalement qui leur fait entendre des loups. Quoi, hein.
Voilà, c'est-à-dire ça témoigne, comme vous le dites, en effet, de leur imagination, c'est-à-dire au fond de leur angoisse profonde. Voilà.
Le petit poussé prend les choses en main,
ouais.
Comme nous l'a accoutumé.
Ouais.
Il grimpe en haut d'un arbre.
Ouais.
Ça aussi, c'est pas anodin. Hein. Pour voir loin, il faut monter haut.
Ouais.
Et c'est là qu'il découvre une lumière dans la nuit,
ouais.
Vers laquelle ils vont se diriger.
Voilà. Alors moi, j'aime bien ces petits détails des contes, parce que, comme vous le dites, en effet, le petit poussé, dont il faut se rappeler qu'il est quand même pas bien grand, a priori, en tout cas par rapport aux autres doigts, ou par rapport à ses autres frères, c'est le plus jeune, mais c'est en même temps le plus malin, il grimpe à un arbre, et en effet, il voit cette petite chandelle. Alors on aura l'occasion de reprendre la symbolique de cette chandelle, mais je trouve que c'est le premier élément, on pourrait dire, qui n'est pas dans une espèce de noirceur terrible dans ce conte, hein, c'est-à-dire au milieu de la nuit, il est possible qu'il y ait une lueur. Et dans une comparaison avec les mythes grecs, par exemple, qui sont toujours des mythes tragiques, qui se terminent mal, même si de temps en temps il y a l'apothéose de certains dieux, hein, comme Héraclès, qui est un personnage absolument insupportable, et non pas l'Hercule positif et génial des films contemporains, qui peut devenir un dieu à la fin. Le plus souvent, ça se termine mal. Tandis que dans les contes, la situation est toujours tragique au départ, et puis il va y avoir des petits éléments qui vont permettre de se sortir de ce drame. Donc ici, premier élément, c'est la petite lueur dans la nuit.
Alors, le petit poussé et ses frères se dirigent tant bien que mal vers cette lumière, et ils arrivent à la fameuse chaumière qui abrite d'abord une bonne femme, bonne dans, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme,
ouais.
Et, mais qui va s'avérer malheureusement être la maison de l'ogre.
C'est intéressant de voir d'ailleurs que ils frappent à cette porte, donc ils ont trouvé au cœur de la nuit, on est toujours au cœur de la nuit, hein, une chandelle en plein jour ça se voit pas, évidemment, au cœur de la nuit ils ont trouvé ce havre de paix. Il frappe, il y a cette bonne femme, en effet, comme vous dites, hein, qui a l'air d'être a priori plutôt sympathique, puisqu'elle va les accueillir. Et le petit poussé, il est aussi dans cette fonction de la parole, hein, c'est-à-dire il y a ce récit, il raconte. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que lui et ses frères se sont perdus. Donc, on pourrait se dire, il pourrait raconter, ben voilà, j'ai un papa, j'ai une maman, on est 7 enfants, et puis mes parents, ils nous ont abandonnés. Non, il protège ses parents. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ici, pas question d'accuser les parents. Quand on se retrouve seul dans la nuit, on doit bien y être pour quelque chose. Et on est les méchants. Voilà. En gros, quand il se passe quelque chose dans la famille, c'est toujours les enfants qui sont les coupables. En gros. Hein.
La femme de l'ogre va les accueillir dans la chaumière.
Oui.
Mais malheureusement, l'ogre débarque. Hein.
Voilà. Alors, elle prévient les enfants. Hein, d'ailleurs,
ils sont prévenus.
Elle leur dit, oulala, vous n'êtes pas dans un lieu qui est simple. Donc, j'ai envie d'introduire tout de suite pour que nos auditeurs se préparent à cette double lecture, c'est-à-dire le couple de l'ogre avec la femme, qui est l'ogre qui est un père, hein, c'est pour ça que je vais l'appeler maintenant le père ogre, par opposition au père bûcheron. J'ai envie de mettre en parallèle ces deux premiers couples, et j'en mettrai un troisième après, avec une autre figure paternelle encore. Il y a donc le père bûcheron, qu'on a vu au début, qui a abandonné ses enfants. Là, on se retrouve maintenant au cœur de la nuit avec un deuxième couple, avec le père ogre, puisqu'il a des filles, on va le voir un petit peu plus tard, et puis sa femme. Alors, cet homme, il a l'air d'être un petit peu... ce couple a l'air d'être un peu particulier, puisque, comme vous l'avez dit, cette femme, elle a l'air d'être touchée par les enfants, ils sont jolis, mais elle est quand même mariée à un ogre. Et puis, un homme qui est un ogre, un ogre qui vit au cœur de la forêt, au cœur de la nuit, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis, on apprend très vite qu'il aime la chair fraîche et qu'il a faim. Et quand l'ogre arrive, lui, il dit qu'il a faim, qu'il veut être mangé. Et il y a une petite incise ici dans le conte qui est quand même très étrange, puisque le petit poussé, il affirme qu'il préfère être mangé par monsieur plutôt que d'être mangé par les loups. Très honnêtement, entre être mangé par un ogre et mangé par un loup, je ne saisis pas trop la différence, mais on a envie de se dire, il faut essayer de penser la différence. Si le conte le dit... Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que les loups, c'est encore plus sauvage qu'un ogre ? Est-ce que un ogre, finalement, c'est jamais qu'un loup ? Sauf que quand même, on peut parler, ça écoute, ça a du langage, on ne sait pas trop. En tout cas, le petit poussé, dans son espèce d'intuition, il a l'air de se dire, il vaut mieux que je cause un petit peu avec l'ogre, on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose, c'est quand même mieux qu'un loup. Voilà. Et en gros, il n'a pas tort, puisque finalement, ça se négocie un peu et que, voilà, peut-être que c'est l'ogre aussi qu'il a une femme. Alors, s'il a une femme, voilà, on ne sait pas très bien si les loups ont des louves ou quand les loups ont très faim, ils ne sont peut-être pas toujours à côté de leur louve. Tandis qu'ici, au moins, on a un loup...
Un allié presque.
Oui, peut-être un allié avec la femme, une alliée.
Au début, quoi.
Oui, tout à fait. Voilà.
Alors, l'ogre entre dans la chaumière. Il a beau avoir à manger, son flair ne le trompe pas. Hein. Il va vite mettre la main sur le petit poussé et ses frères, malheureusement.
Voilà, comme vous le dites, en effet, il y a à manger, puisqu'au fond, il y a, je ne sais plus trop quoi, un mouton qui est en train de rôtir. Et puis lui, il sent, il renifle, il a cette perception ou sensorielle ou intuitive. Ou
c'est un peu bestial, hein, d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait.
Il mange de la chair fraîche.
Voilà. Et puis, en fait, il y a des choses qui sont très paradoxales chez cet ogre, puisque en découvrant les enfants, il se lèche les babines, et puis ils veulent partager avec des amis. Alors, il a l'air presque un petit peu généreux, sympathique, on a presque envie de s'en faire un petit copain, là, voilà, et quand il a du gibier à disposition, il ne veut pas le manger pour lui tout seul, voilà. Peut-être qu'entre dévoreurs, on se refile le tuyau, voilà. Et d'ailleurs, il dit à ce moment-là à sa femme qu'il n'est pas très content d'elle, et puis il lui dit qu'elle est trop vieille aussi. Alors on va revenir un tout petit peu plus tard lorsqu'on va essayer de réfléchir sur cette question-là, mais j'invite les auditeurs à garder au fil, mais on reprendra ça, au fil de leur écoute, cette notion qu'ici il y a de la chair fraîche, en l'occurrence les enfants, et puis qu'il y a une chair qui n'a pas l'air d'être très fraîche, en l'occurrence c'est la chair de sa femme.
Alors, le petit poussé et ses frères demandent pardon à l'ogre, mais bien sûr, c'est un ogre, donc il n'a a priori aucune pitié, comme les bêtes sauvages, comme les loups.
Oui, alors il demande pardon, ça, c'est important de le souligner, parce qu'il demande pardon de quoi ? On a envie de se dire, voilà, ils sont coupables, hein, et ils sont coupables, on aura envie de dire en jouant sur les mots, mais c'est aussi l'étymologie de coupable, c'est-à-dire ils sont coupables, parce qu'ils, et ensuite ils vont être découpés, hein, découpés en tranches pour être dévorés. Donc entre le coupable et le coupable, hein, dans les deux sens du terme, on voit bien qu'il y a une sorte d'analogie, et quand un enfant finalement va se faire tuer, dévorer ou peut-être autre chose par ses parents, finalement il est coupable, quoi, hein, et c'est clair et net, et on se pose pas la question de pourquoi c'est comme ça.
Alors le drame va être remis au lendemain, et notre émission va être remise dans 15 jours, mais avant de nous quitter, cette dernière figure de la femme de l'ogre qui parlemente, qui en même temps assez ambigu, parce que finalement c'est elle qui va préparer la sauce pour agrémenter les enfants.
Voilà.
Mais qui parvient à suspendre le drame.
Exactement, comme vous dites, elle est tout à fait ambivalente avec le fait qu'elle a accueilli les enfants, qu'elle leur a dit qu'ils arrivaient chez un ogre, qu'elle est prête pour faire une bonne petite sauce pour qu'il y ait un petit ragoût d'enfant qui soit tout à fait délicieux pour son mari d'ogre. Et puis en même temps, elle doit avoir quelque chose d'une forme d'attachement, puisque comme on a vu que la femme du père bûcheron avait des larmes, elle essaye de retarder le drame.
Eh bien, on se quitte sur ce ragoût d'enfant. Merci beaucoup, docteur Dominique Michel.
À la prochaine fois. Au revoir.